trois interventions ce matin, sans trahir ce qu'on pourra dire dans la conclusion. En fait, je ne sais pas quelle conclusion nous allons y apporter, mais ça dépendra aussi des intervenants. Sans trahir la conclusion, on a vu ce matin que la fragilité, ça faisait aussi référence à d'autres types de valeurs, l'humilité, la responsabilité, l'élan. Moi, j'ai retenu l'élan, cette notion de vouloir avancer, parce que la fragilité, ce n'est pas simplement un état statique, c'est surtout quelque chose qui doit nous relancer. Alors, au travers de vos trois expériences différentes, je vais vous demander très simplement, comment, d'abord, qu'est-ce que vous faites ? Et comment voyez-vous la fragilité dans les activités que vous développez? Et puis, deuxièmement, c'est est-ce que vous pensez vraiment que la fragilité aujourd'hui, c'est un élan, ça met davantage en évidence la vulnérabilité? Enfin voilà, comment voyez-vous, vous, la fragilité? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous entraîne vers pousser les autres vers autre chose? Alors, si vous avez des idées aussi pour poser des questions à ces personnes, je vous en prie, vous n'hésitez pas à les poser. Vous me levez la main et puis je viendrai vous voir. D'accord ? On va tâcher de faire une table ronde un petit peu dynamique et non pas chacun qui intervient comme ça. D'accord ? Donc, vous présentez un petit peu ce que vous faites d'abord, comment vous voyez la fragilité dans vos activités. Et puis, du coup, on verra si pour vous c'est un élan ou si c'est au contraire un poids finalement.
Bon, alors je vais commencer puisque j'entends bien. Bénédicte Coronel, je suis consultante en développement professionnel. Alors de fait, ça prend en compte l'insertion, mais pas que. Voilà, non, tout va bien. Mon enjeu, alors je travaille à l'APEC. L'APEC, c'est une association, c'est une structure paritaire qui accompagne des cadres, qu'ils soient en poste ou qu'ils soient en recherche d'emploi, des jeunes diplômés aussi, enfin des personnes qui sont en questionnement sur leur évolution professionnelle, sur leur insertion, sur leur reconversion. Et de fait, mon premier point d'arrivée en relation avec les personnes que j'accompagne, c'est la fragilité. Toute personne qui vient dans mon bureau vient avec une question lancinante et en général d'ailleurs plus souvent brûlante que lancinante, qui est j'ai un problème quoi. Donc moi c'est mon matériau de travail. J'ai été assez vite là dans la présentation de mon métier. Peut-être qu'il faut que je me présente aussi rapidement. Je suis donc consultante depuis 5 ans dans cette association-là. Moi, j'ai tout un parcours de conseil en ressources humaines, donc où jusqu'à présent, je vais essayer de me présenter en prenant le prisme de la fragilité. Donc jusqu'à présent, depuis les 25 dernières années où j'ai travaillé en conseil en ressources humaines, justement, la fragilité, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Tout ce qu'on ne montre pas, clairement, ça fait partie des options où on a quand même une approche assez méthodique en général. Quand on fait du conseil, on arrive avec des solutions et l'enjeu est quand même d'entendre à peu près le besoin de son client ou son problème, sa problématique, mais d'apporter tout de suite la solution. Clairement, dans la posture dans laquelle je suis aujourd'hui, dans un service non marchand, puisque c'est aussi la spécificité de cette association, j'ai un tout petit peu plus le temps de justement traiter le matériau qu'est la fragilité au moment où les gens rentrent dans mon bureau avec des problématiques. Je prends juste un exemple, ça m'arrive très régulièrement. En tout premier moment d'arrivée, dans les 5 premières minutes où les gens vont se présenter en me disant bonjour, voilà, je fais appel à l'APEC, où les gens me disent je veux démissionner. Pouf. Je pose les choses sur la table et on y va. Ça c'est vraiment un des points d'entrée pour moi. Et c'est là où je dis que c'est mon matériau, c'est à partir de cette question un peu criante que mon objectif avec la personne qui est en face de moi, c'est de l'aider à retrouver le sens de ce cri-là, retrouver la motivation initiale, primaire, ouais, et à la transformer, en faire une révolution pour retrouver effectivement son point d'élan plus central, plus personnel, plus singulier, et à trouver, moi je joue avec un grand écart entre justement ma singularité, ce qui me met en mouvement, et en quoi elle peut être utile à une collectivité, un ensemble, une organisation. Et mon enjeu, enfin, la manière dont je présente les services d'APEC, c'est toujours comme ça. On va faire le grand écart. D'abord, je vais vous inviter à revenir à vous-même, effectivement, ce qui vous met en mouvement, ce qui vous est propre. Et puis ensuite, à aller explorer, identifier là où ça peut être utile. Voilà, une fois que j'ai dit ça... quoi d'autre dire? En tout cas, voilà, je plante le décor et j'aimerais bien qu'effectivement on puisse ensemble discuter de comment vous pouvez identifier ce qui est votre matériau, parce que moi c'est vraiment comme ça que je le définis, quoi. Fragilité, matériau. Matériau douloureux, clairement, mais matériau.
Donc moi, je suis Cécile Boulot, psychopédagogue à médiation corporelle, et j'interviens aux apprentis d'Auteuil en tant qu'animatrice pastorale. Et en fait, même si j'ai deux entités professionnelles, ça a la même racine, qui est l'humain. Et là, tout à l'heure, Dominique nous parlait de la valeur que l'on peut donner aux choses. Et finalement, je vais... dans mes deux expertises, toucher la valeur que la personne peut donner elle-même. Et donc, je vais surtout développer ce pourquoi on m'a demandé par rapport aux apprentis d'Auteuil, mais je voudrais dire quand même sur le fait d'accompagner des personnes en psychopédagogie perceptive à médiation corporelle. C'est un nom un peu compliqué, un peu barbare, mais qui permet aussi de rencontrer la fragilité de chaque être humain dans son corps. On parlait donc du macro-mouvement, voilà, dans la société, les fragilités que nous pouvons rencontrer dans notre société. En fait, il y a le même écho à l'intérieur de nos corps. Et chaque individu que je rencontre a besoin de rencontrer sa fragilité, de la considérer, de la regarder, pour pouvoir, ce que témoignait... tout à l'heure un monsieur, pour pouvoir finalement lui donner toute sa grandeur. Donc aux apprentis d'Auteuil, les jeunes que j'accompagne, ce sont des mineurs non accompagnés, des mineurs étrangers, qui à un moment dans leur parcours de vie, la vie à l'étranger, enfin dans leur pays n'était plus possible, et ils ont voulu courir vers un ailleurs, qu'ils espèrent tous... plus doux, moins confrontant. Et donc là, je pense à un jeune garçon, Mohamed, qui est ivoirien, qui est malien, pardon. Et en fait, sur les petits panneaux qui sont posés dans leur chambre, il y a de noter qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Dans ce qu'ils aiment, enfin dans ce que lui aime, c'est sa maman. Et dans ce qu'ils n'aiment pas, les combats. Les combats. Voilà. Donc, c'est ce qui a motivé Mamadou à quitter son pays, sa famille, ses racines. Et leur grande fragilité à tous les jeunes qu'on accompagne, c'est déjà de ne plus avoir de racines. Ils viennent dans un pays dont ils ne comprennent pas le contexte culturel. Dont ils ne comprennent pas la langue. Certains en communiquent par téléphone, heureusement qu'il y a le téléphone, parce que voilà, on ne maîtrise pas toutes les langues, toutes les subtilités, même au niveau du langage corporel. Et oui, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que les apprentis d'Auteuil accompagnent les mineurs non accompagnés depuis les années 80. En 2019, il y avait à peu près de recenser 16 000 jeunes mineurs non accompagnés qui arrivaient sur le territoire français. En 2020, ça a explosé à 40 000 jeunes. Donc, le monde va mal. Enfin non, si je puis dire, disons que voilà, je pense que, alors est-ce que c'est l'effet confinement, je ne sais pas, mais en tout cas, bon nombre de guerres qui poussent vraiment ces jeunes à partir. Donc dans notre quotidien, on rencontre la fragilité de ces jeunes. Et alors comment Apprenti d'Auteuil vient en soutien à cette jeunesse qui a besoin finalement, comme tout être humain, de pouvoir s'accomplir. Il y a trois axes d'approche. Et donc j'en reviens toujours au micro-macro. Il y a la relation intime à soi, le sens de notre propre humanité. Il y a la relation à l'autre et au monde. Il y a la relation au tout et en même temps à ses racines. Alors je vais développer un tout petit peu chacun de ces points-là. Donc dans sa relation à sa propre humanité, à soi, tous les moyens sont bons pour accompagner ces jeunes de toute façon. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe éducative avec des professionnels engagés, bienveillants, qui sont là pour les amener à s'insérer le mieux possible. Moi, dans ma discipline, ça ne va pas être de les aider dans leur parcours administratif, ça va être d'essayer de créer du lien. Déjà pour apprendre à ne pas avoir peur de la différence, peur de l'autre, mais pour pouvoir aussi apprendre à s'aimer soi, à se regarder soi. Et comme disait Dominique, à nouveau donc sur la valeur des choses, pour pouvoir apprendre à se donner une valeur juste. Et pour cela, ça passe par moi, la manière dont je le travaille, mais qui est aussi très très présente à la Fondation des Apprentis d'Auteuil, c'est donner de la place au corps, à sa propre identité. Donc ça va être, par exemple, en leur apprenant à faire un petit peu de relaxation, revenir à cet essentiel de se mouvoir dans son corps, basculer de gauche vers la droite, essayer d'observer les sensations que cela provoque. Voilà. C'est quelque chose qui les dérange profondément parce que ça les renvoie à leur douleur, à ce qu'ils ne veulent pas forcément voir. Et en même temps, dans mon expérience, dans mes deux expériences professionnelles, je m'aperçois que c'est pas forcément en fuyant que l'on a les réponses, c'est pas non plus en confrontant, mais c'est en faisant des propositions douces, bienveillantes et encadrantes, qui permettent d'amener la personne à faire une proposition pour avancer. Voilà, donc ils peuvent prendre la main tendue comme ils peuvent ne pas le choisir, et c'est dans leur bon droit, bien évidemment. Mais je me dois en tant que professionnelle de leur faire cette proposition. Au niveau de la relation à l'autre et au monde, donc pour leur permettre de s'insérer davantage en France, c'est important de les amener à expérimenter le don dont on parlait également tout à l'heure. Finalement, je pense qu'on trouve toujours un petit peu ces mêmes termes, le don. Parce que derrière le don, il y a une grande force, et celle de se sentir utile. Donc, je vais organiser des activités qui leur permettent de donner du temps, de rendre service gratuitement. Alors bien sûr, ce sont des adolescents, et je ne vous cache pas que la première chose qu'ils me demandent, c'est ça me rapporte combien. Donc on est obligé quand même un petit peu de négocier certaines activités. On leur dit, bon, on te donnera un petit peu d'argent pour t'acheter des vêtements, mais d'autres activités, ben non, c'est vraiment du don. C'est important de leur faire expérimenter ça. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la relation à l'autre. Et puis c'est provoquer des rencontres. Des rencontres avec différents acteurs de la vie associative. Nous avons aussi des bénévoles qui interviennent, des familles d'accueil qui reçoivent les jeunes le week-end pour les jeunes demandeurs. Tout ça dans l'idée de plus il y a de liens, et plus la personne peut apaiser ses lieux d'insécurité en elle-même. Et d'ailleurs, c'est Marie-Dominique qui rappelait que finalement la fragilité était le bon moyen de créer du lien. Donc je n'avais pas mis ces mots-là, mais effectivement ça a fait vraiment sens parce que c'est ce qu'on recherche pour nous, pour nos jeunes. Et donc la troisième partie, c'est celle de les mettre en relation avec leurs racines et puis le tout. Il me semble que le jeune, prenons un petit peu l'être humain, si je l'identifie à un arbre, eh bien un arbre sans racines ne va pas très haut. Et donc il est important de considérer les racines de nos jeunes. Et je m'appuie dans mon travail au quotidien à ce qu'ils puissent renouer avec leurs racines, et c'est leurs racines spirituelles que j'entends, spirituelles, culturelles, mais leurs racines, pour pouvoir ensuite se transcender et devenir vraiment eux-mêmes. Et donc, ces racines, ça va passer par... enfin, nous sommes dans un pays laïque, où l'expression de la religion est profondément individuelle. Et ils viennent d'un pays où souvent leur foi, ils la partagent. Tout le monde a la même foi, ou bien souvent. Et donc, ils arrivent ici, dans un univers qu'ils ne connaissent pas, complètement insécure. Et ils n'ont pas de lieu, de temps pour exprimer leur foi. Donc je veille à ce qu'ils puissent grandir dans leur foi. Bon nombre sont musulmans. Moi, je suis chrétienne. mais comme je vois à quel point ma foi est fondatrice pour moi, je les aide. À développer donc ce pilier en faisant intervenir un imam qui travaille avec le diocèse, de façon à les former aussi dans leur foi, mais de façon modérée, de façon intelligente, et surtout pour qu'ils puissent non pas transposer leur foi dans des stéréotypes et préceptes sans comprendre la portée, mais en leur permettant de développer leur sens critique et leur permettre vraiment de construire une foi profonde et qui fait sens pour eux. Et donc, par exemple, avec l'imam qui intervient sur notre structure, on va bientôt leur faire un petit atelier où il va faire un petit exposé, un temps de prière sur la foi et la laïcité, puisque vraiment, voilà... Il y a des manières de faire différentes ici. Voilà.
Je suis de Montvilliers, je suis généraliste à quelques kilomètres. Et la fragilité, bien sûr, j'ai composé avec, me demander si je devais la débusquer. Les mis en vigilance, vous me demandez un petit peu comment je fais. Alors, je vais procéder un petit peu par esquisse parce que la parole m'est un petit peu difficile, ça va être un petit peu en esquisse d'une consultation. La consultation a démarré très, on va dire, agréablement. C'est quelques minutes de travail d'hier soir. Tout à coup, une impression de trésor caché. Me suis-je trompé sur ce trésor ? Il n'y a pas de trésor caché, il y a trésor caché. Je suspends le temps dans ma tête, peut-être par un rangement, en me réinstallant, sonnerie de tel, temps suspendu, communication efficace, un nom écrit sur une enveloppe, et l'appel bien relégué. Je me réinstalle plutôt. Redisposition, la question mûrit. Vous êtes bien chahuté, il me semble. Cela fait beaucoup de deuil. Voilà, dans le petit scénario, la phrase qu'elle me fait. Le clitoris est une pousse toujours tendre. Voilà ma marotte qui me repasse par la tête. Elle sourit. Ah oui, c'est vrai, je souris. Le sourire est communicatif. Cela vous fait rire, me dit-elle. C'est vrai, j'ai pris un peu de légèreté, un peu lubrique. Quand vous me parlez de deuil, c'est bizarre. J'aimerais bien alléger aussi, me dit-elle. Cela me fait du bien de parler avec vous. À vous d'imaginer la suite, le livre est ouvert. Voilà. Je lui demande de m'excuser une minute. Je vais vérifier si la porte de la salle d'attente du couloir est bien fermée, parce que le temps passe un peu. On n'a pas forcément d'être vu en prolongation chez le médecin. Voilà un petit peu comment ça se passe. La fragilité, aujourd'hui, je ne vais pas faire pas du tout de catalogue, parce que vous le connaissez, le catalogue. Je vais plutôt dire, eh bien, je vais prendre l'hôpital. L'hôpital, parce que sur une lettre d'entrée à l'hôpital, je vais beaucoup aimer un paragraphe terminal qui va être, par exemple, vous verrez quand vous lui parlez, votre parole va aller éveiller tous ses sens et enfin elle vous répondra dans un sourire. Là, pour une fois, je vois une patiente, parce que tout ces temps de préparation de mon travail, je m'étais dégagé de voir des patients ou d'assimiler. Ça aurait ressemblé à une sorte de hit-parade des fragilités. C'était pas du tout comme ça que j'ai travaillé. J'ai d'abord travaillé, quand Charlotte m'en a parlé, en dessinant. Je me suis dit, la fragilité, ça m'a... Je dessine un petit peu, j'ai dessiné mes mains en selfie. Parce que c'était une manière de se concentrer. C'était une bonne manière de se concentrer. Et là, si je parle un petit peu comme ça, je fais cette petite phrase à l'urgentiste ou à son seigneur, qui peut-être l'aidera, c'est parce que ma patiente, elle a essayé l'appareil, mais elle était toute seule, elle n'a pas essayé vraiment l'appareil, si bien que cette surdité est ancienne, et que du coup, du fait de cette ancienneté de surdité, c'est tout un processus qui qui passe par, eh bien moi je trouve que elle finit par me répondre après un temps long et avec beaucoup de satisfaction, un sourire vraiment exprimé d'être dans la discussion et dans la réponse. Mais elle n'est pas facile à repérer cette réponse aux urgences. Alors, ce petit chapitre de fin de lettre d'entrée à l'hôpital, je le fais aussi en partage avec la secrétaire. Je peux très bien téléphoner aux urgences et trouver une première écoute et lui dire qu'elle est la personne déterminante pour que l'hospitalisation se passe bien, puisque ma patiente n'est pas sortie chez elle depuis tant d'années. Alors, elle ne connaît que, je lui énumère quelques visages connus, donc je pense que je dispose très bien l'accueil en parlant ainsi. Je pense aussi que l'hôpital est un bon l'entrée à l'hôpital ou la sortie d'hôpital sont de bons viviers de fragilité. Il y a là aussi une vigilance que je dois avoir pour la sortie d'hôpital. Ce couple est âgé, il cède beaucoup, il s'épuise en cédant, l'un part à l'hôpital, je dois faire très attention à ce qu'il ne revienne pas dans la nuit, pendant le repos bien mérité du conjoint. Ça, beaucoup de vigilance sur tout cela. J'ai aussi j'évoquais mes correspondants que je vais motiver très facilement. Je vais très facilement, il suffit de dire à mon kiné, pour lequel le patient donnera une ordonnance où il y a écrit rééducation du rachis lombaire, je peux lui raconter, je peux lui dire, écoutez, vous êtes sans répit, c'est parfait. Restez-le un bout de temps. Il prend la mission, mais ah, il adore cette mission-là. Peu importe qu'il agisse sur... Peu importe que le motif de la rééducation physique soit très contestable. Je trouve que la fragilité séduit, effectivement, et on trouve l'unisson autour. Alors, j'aime bien aussi, j'ai amené mon serment d'Hippocrate. Lui, il est fort en sémiologie. Wow. Tous les mots ont du sens et on ne peut pas raconter le serment d'Hippocrate, on ne peut que le lire.
Tout ça, c'est sûr, ça a disparu. C'est sûr, je transmettrai au fils de mes maîtres l'éducation que j'ai reçue de lui. Tout ça. Ça, c'est... Il a parlé de la prostate de Mitterrand.
est-ce que, excusez-moi docteur, mais est-ce qu'on pourrait vraiment venir à la notion de fragilité?
Oui.
Parce que vraiment dans ce que vous venez de dire, c'est un sujet que je connais un peu, je suis un ancien directeur d'hôpital. Voilà. Donc ce que vous avez dit sur l'hôpital me touche, me concerne et me concerne encore, puisque je suis expert en indemnisation des accidents médicaux. Donc voyez-vous, la question de l'entrée et de la sortie, la question de l'hospitalisation sont des sujets que je connais bien. De même que le serment d'Hippocrate, vous faites référence à ce médecin de François Mitterrand, il n'a pas été radié que pour ça. Il a été radié aussi parce qu'il a publié un livre qui était contraire à ce que pensait le président de la République de l'époque. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, exactement. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, ce que j'ai, je ne veux pas vous couper la parole, mais je voudrais revenir sur le débat, parce que sinon, je vois l'heure qui avance, et effectivement, on va se retrouver en situation difficile. Moi, j'ai relevé un certain nombre de points, mais si vous avez des questions, vous levez le bras, vous n'hésitez pas, vous me dites. Moi, je voudrais intervenir sur la notion des racines. On reviendra sur la notion après de la santé. Parce que ça rejoint l'intervention de ce matin aussi, par rapport à l'efficience, à la productivité des services de soins, etc. Sur les racines. Vous avez parlé tout à l'heure de la notion de racine. Alors c'est une question qu'on a abordée déjà ensemble, puisque nous avons, avec Cécile, travaillé aux apprentis d'Auteuil sur la notion de l'interreligieux. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi que, accessoirement, je suis diacre permanent de l'Église catholique et je suis chargé des dialogues interreligieux et délégué à l'œcuménisme et au judaïsme dans le diocèse de Rennes. Voilà. Donc Cécile m'avait demandé d'intervenir au titre de l'interreligieux. Et nous nous sommes retrouvés avec le président du Conseil du culte musulman, un prêtre, enfin je ne sais plus qui, on était plus en nombre. Et en fait, nous ce que nous avons constaté là, c'est que ces jeunes n'avaient plus de racines, effectivement. Mais ma question, elle est plus lointaine, c'est-à-dire que, aussi par rapport à vous et par rapport à vous, est-ce que dans les personnes que vous rencontrez en situation de fragilité, la vraie question, elle n'est pas est-ce qu'ils ont toujours des racines? Est-ce qu'ils ont toujours des racines sociologiques, sociales, professionnelles? Est-ce qu'ils ont des racines culturelles? Est-ce qu'ils ont des racines par rapport à ce qui est leur vie de tous les jours? Voilà, est-ce que par rapport à ça, vous avez ce sentiment que finalement la fragilité, ce n'est pas aussi l'expression d'une disparition des racines, d'une disparition d'une tradition, d'une disparition des cultures. Est-ce que vous avez des questions vous-même sur cet aspect des choses? Voilà, n'hésitez pas à intervenir, hein, surtout. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, et puis vous également, par rapport à cette notion de racine, parce que vraiment, on a l'impression qu'on a coupé quelque chose, et que ce quelque chose qui est coupé devient fragilité. Je ne dis pas vulnérabilité, hein, parce que j'ai bien retenu la différence des deux.
Je suis dans un milieu agricole, rural, un milieu rural. Un jour, je reçois un appel de l'hôpital en me disant « Qu'est-ce qui se passe? Votre malade, personne ne vient le voir et on ne le comprend pas. Je ne le trouvais pas en difficulté d'être soutenu par sa famille. Je laisse un peu filer. Le même appel, une semaine après, je vous assure, je me suis dit, je vais le voir. C'était un patient qui était malvoyant, c'était il y a quand même 20 ans, et une chambre à plusieurs personnes, et je rentre et je lui dis, visiblement il me reconnaît au son de ma voix, et je lui dis, après quelques nouvelles, est-ce que vous avez des visites? Il me répond, vous me parlez de vos médecins ou de mes gens? Alors, voilà. En fait, la fragilité, c'est aussi un petit peu sa culture qui juge la fragilité. Il était jugé fragile, mais en fait, il était très enraciné. Effectivement, ça correspondait tout à fait à son mode de vie, que il vivait tout à fait bien, très perdu, en autarcie, en famille, et il leur avait sûrement dit, pas la peine de venir me voir.
Tout à fait. Sur le même sujet ?
La question des racines, alors moi je la retraduirais dans mes termes techniques plutôt sur la question de l'isolement professionnel, parce qu'effectivement, depuis, donc ça fait 5 ans et demi que je suis revenue travailler à l'APEC, mais j'ai connu une période de travail dans cette même association donc, d'accompagnement des cadres il y a 10 ans, et un des éléments qui m'a le plus frappé, c'est le nombre de personnes qui venaient nous voir en situation de pré-burnout, voire de burnout. Et là, pour le coup, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'effectivement, des cas beaucoup plus tendus, lourds, puis longs à retravailler dans le temps de reconstruction sociale et professionnelle, et humaine avant tout d'ailleurs, quand même, s'appuyait beaucoup sur un isolement des personnes dans leur situation de travail, où effectivement le changement d'organisation du travail coupe plus les personnes d'un travail interrelationnel, parce qu'on est objectivé individuellement. Et le fait d'individualiser les objectifs, créer effectivement un travail beaucoup plus isolé, en tout cas beaucoup plus individualiste, et une certaine forme effectivement de travail un peu hors sol. C'est là où je relis avec les racines, parce qu'en fait, ça m'arrive un peu, enfin pas régulièrement, mais ça m'arrive une fois de temps en temps d'entendre des gens me dire j'ai complètement perdu le sens de ce que j'apporte au collectif. J'ai des objectifs, je les maintiens d'ailleurs, je les obtiens très, très honorablement, tout le monde est content de moi, sauf que moi je vois plus du tout à quoi ça sert. Et là, je le relis à cette notion d'enracinement, où pour moi il y a vraiment un mouvement d'isolement dans le collectif. Je ne sais pas bien comment le définir, mais effectivement, une espèce d'individualisation qu'on souhaite, les organisations, pour une meilleure performance, mais qui, du coup, coupe complètement du rapport au sens, de la finalité de chaque fonction, de chaque action par rapport au travail commun.
Et est-ce que, du coup, ils peuvent se considérer comme des victimes ?
Alors, quand ils
un arrivent, système qui est hors de leur champ.
Pas du
de...
tout. Pas au moment où ils arrivent. Non, au moment où moi, le premier constat et la première. La colère, ça vient après. Ça vient, mais ça vient après. Et la colère sur. Enfin, moi, je constate plusieurs étapes. La première arrivée, souvent, les gens arrivent soit en colère, soit en culpabilité. C'est tout de ma faute. Et effectivement, il y a un processus de reconstruction où la colère passe. Dans la quête de sens et du coup de reprise en maîtrise de son cheminement et de ses choix, oui, il y a un passage par la colère et par la colère sur l'organisation. Ce n'est pas systématique, ça peut être le cas. Ouais.
Cécile ?
Oui, moi je constate que ce soit en cabinet avec les personnes que j'accompagne ou bien les meneurs d'en accompagner, il y a comme une distorsion entre ce que la personne est réellement et ce qu'elle croit que l'on attend d'elle ou ce qu'elle aimerait être. Et pour moi, ce manque de racines, c'est ce manque de reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Et du coup, on se perd, il me semble que l'individu se perd lorsqu'il aimerait ne jamais être fatigué, ne jamais avoir mal ici, ne jamais être dépressif. Les jeunes mineurs d'en accompagner quand ils viennent ici, mais moi je veux un travail, je veux une nouvelle vie. Et la projection d'attente fragilise énormément l'individu et augmente la fragilité des racines.
Donc la fragilité des racines... Moi, je suis médecin. Fragilité des racines, on en a conscience, mais est-ce que le rôle du médecin, cher confrère, c'est pas aussi de dépister les risques de fragilité, les déficiences, les incapacités ? On voit que dans notre profession, il y a un manque de prévention primaire, d'alerte dans le système OPE, c'est-à-dire organique, ou psychologique, ou environnemental. Je veux dire... Je suis frappé du fait
qu'on ait une responsabilité comme d'autres sur la connaissance des fragilités pour aider le fragile. Voilà, donc les racines, oui, mais il n'y a pas que les racines. Il y a des gens qui sont très bien racinés, mais qui ont des troubles psychiques, des troubles cognitifs, qu'il nous faut dépister parce qu'ils deviennent fragiles, et alors qu'ils ne l'étaient pas.
Il faut beaucoup de vigilance. Je vous montre un dessin. Vraiment beaucoup de vigilance.
Juste un petit détail sur le mot racine. Alors, je le dis de mémoire parce que vous m'y faites penser. J'avais regardé l'étymologie parce qu'en effet, on en parle beaucoup. Et puis, cette dialectique des racines et des ailes, etc. En fait, la racine de racine, c'est un mouvement de bas vers le haut. Autrement dit, la racine, c'est pas ce qui nous ramène à l'origine. C'est au contraire ce qui, là où on est ancré, peut nous propulser. C'est ce mouvement-là. Je trouve que par rapport à ce dont vous témoignez pour les migrants, c'est intéressant parce que, bon, eux, ils ont été obligés de partir. Et c'est un courage incroyable, ou le courage de la maman dont vous parliez tout à l'heure, va, vie et devient, qui dit à son enfant, à sa fille, pars, parce que sinon, tu vas mourir, quoi. Donc, elle va partir, rencontrer des tas d'épreuves. Mais la racine, c'est ça, c'est une force de propulsion en réalité. Mais dans notre langage, on a tendance à en faire un réancrage. Pour ça, je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur les gens qui peuvent être très ancrés dans leur milieu, très pieds dans la glaise, mais ils ne sont pas forcément en mouvement. Alors que l'urbain classique, voilà, très bobo, très éduqué, etc., son problème, c'est qu'il est hors sol. Donc on a deux formes de fragilité là.
Oui, alors le sens de la question, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire la racine, elle est en dessous, le sol, et elle est au-dessus. Alors effectivement, moi, je pense à la photo de Dominique ce matin, Dominique Garnier ce matin, de la frêle embarcation avec les migrants à l'intérieur. Et je me disais que, bon, les voilà, ils sont déracinés de chez eux, mais qu'est-ce qu'ils veulent essayer de construire? Ils veulent essayer de construire l'arbre qui va en sortir. C'est-à-dire, d'une certaine forme, l'arbre de vie, un nouvel arbre de vie. On suit une famille de migrants kurde. Alors, je vous rassure, elle est arrivée avec toutes les bénédictions, couloir humanitaire, enfin tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci. Mais pour eux, reconstruire l'arbre de vie, reconstruire un havre de paix, parce qu'ils venaient de Raqqa, reconstruire un havre de paix, c'est une œuvre monumentale pour eux. Et tout à l'heure, quand j'écoutais le médecin, quand vous parliez des personnes qui sortaient de l'hôpital, et je faisais le rapprochement avec ce que vous disiez sur la prison. Je n'ai pas abandonné l'idée d'un sujet sur l'enfermement. Elle n'est plus là, Charlotte, pour l'instant, mais je ne l'ai pas abandonné parce que cette notion d'enfermement, ce n'est pas une notion simplement dépressive, comme je disais ce matin. C'est aussi une notion qui peut permettre de progresser, de sortir, et surtout d'abattre des murs d'incompréhension qu'on a sur ces lieux d'enfermement. Le rapprochement que vous avez fait tout à l'heure entre la prison et le monastère, et l'abbaye, je trouve que c'est un rapprochement exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous tirer vers le haut. Ceci étant, les prisons, pour avoir mis en place les services, ce qu'on appelle les UHSI, les UHSA, donc les unités d'hospitalisation pour les prisonniers d'une grande région, moi, à chaque fois que je vais dans une prison, je me sentais pas bien. Voilà, c'est comme ça. Ma femme est aumônière de prison, elle trouve ça très bien. Moi, je n'ai pas ce charisme-là, voilà, je le dis, parce que c'est un milieu pour moi qui est vraiment le milieu de l'enfermement le plus dur, hein, finalement, le plus dur. Donc voilà, donc cette question sur les racines, finalement, elle était pas mal. Hein. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, madame.
Merci. Dans ces accueils, il y a tous ces gens qui viennent vous voir, est-ce qu'il y a comme obstacle fragilisant la culpabilité d'être malade, la culpabilité de ne pas être arrivé à quelque chose ou de venir de nulle part si on part des racines? Est-ce que c'est une question pour vous comme obstacle dans la vie que la culpabilité, et qu'est-ce que vous en faites?
Alors, moi, j'ai une grande chance, c'est que toutes les personnes qui viennent me voir viennent de manière volontaire. Il n'y a aucune obligation, au contraire. Les gens sont volontaires pour venir me voir, mais effectivement, dans mon diagnostic de premier entretien, en l'occurrence, ça, c'est vraiment une spécificité des consultants, en tout cas de ma pratique, moi, de consultante à l'APEC. Il y a une partie du diagnostic que je fais en entretien que je verbalise, que je donne oralement aux personnes, en leur disant bon, voilà de ce que vous me dites, j'entends si, ça et ça, est-ce que ça vous va et qu'est-ce qu'on va faire avec ça ensemble. Et dans le si, ça et ça, alors je ne le verbalise pas forcément comme ça au départ, mais je mets quand même, effectivement, il y a souvent une question de culpabilisation et je le mets pouf. Sur la table en disant bon, je vous entends avoir une analyse de la situation où vous prenez quand même une grande part de responsabilité, je tourne en général un petit peu comme ça voilà, poupoum, et faisons ensemble s'il vous plaît une analyse, et là pour le coup c'est vraiment tout mon enjeu à moi de dégager la personne de sensation d'une culpabilité et de rentrer dans une démarche plus neutre d'analyse de situation, où de toute façon la part de responsabilité est toujours partagée. Donc il y a une organisation qui a vu ou pas, ou qui n'a pas vu ou qui n'a pas voulu, ou qui a identifié que ce n'était pas sa vocation. Enfin bref, il y a une organisation qui a sa part de responsabilité dans la situation présente, et puis il y a effectivement une personne qui a elle aussi sa part. Et en fait, j'essaie de non pas de libérer la personne de sa culpabilité, mais de changer le débat. De poser le débat sur de l'analyse factuelle, des émotionnalisées, si on peut le dire comme ça, enfin voilà, la plus neutre qui soit, pour permettre à la personne de respirer, quoi. Déjà, un peu de respiration, un peu de reprise un peu en main de sa compréhension de ce qui lui appartient et de ce qui ne lui appartient pas dans toute cette histoire. Et puis, petit à petit, on essaie de déconstruire d'où ça vient, justement ce qui l'a amené à ce moment-là de rupture, de brisure, de problématique, pour aller effectivement l'aider à reconstruire quelque chose qui soit cohérent, et puis où elle se refasse pas, enfin, elle retombe pas dans les mêmes risques. Moi, j'essaye, en tout cas, voilà, c'est ma manière à moi de jouer. Parce que, en fait, voilà, j'essaie de jouer, moi. Il y a un gros problème énorme, faisons son en jeu, mais au sens vraiment, au lieu d'être le jouet de la question, je deviens le joueur de ce matériau-là qui m'a fait tellement mal jusqu'à présent et dont je vais essayer de trouver le sens, quoi.
Alors, moi, je voulais jeter... Pardon, peut-être que vous voulez peut-être aussi... pardon, je reprendrai après.
Mais si c'est pour rebondir, allez-y, puis je...
Alors, c'était un peu pour rebondir quand même, parce que je voulais reprendre un mot que vous avez prononcé, qui me fait réagir, et je me dis peut-être que c'est intéressant de s'arrêter un tout petit peu là-dessus. Vous avez parlé de déconstruire, et en fait, ça m'a fait un choc. Alors, peut-être que la sémiologue aussi pourra réagir, mais... Et là, j'ai une sorte de prise de conscience que souvent on est justement un peu prisonnier et enfin depuis des décennies déjà de cette notion de déconstruction, et j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de mal parce que justement elle nous fragilise, et que j'aurais préféré qu'on parle de comprendre, d'essayer de voilà, mais le fait de, et les mots sont pas neutres, de parler trop souvent et de rentrer dans cette mode de la déconstruction, c'est quelque chose qui n'est pas constructif, justement.
D'accord. Alors, je m'explique. J'espère ne pas me justifier, mais je m'explique sur la déconstruction. Je déconstruis le problème. Enfin, en tout cas, c'est... j'essaie de l'identifier en plusieurs, champs d'investigation. C'est là, quand je parle de déconstruction, c'est que j'arrive souvent avec des gens qui viennent avec un espèce d'énorme problème. Quand je vous disais, le constat premier, c'est je vais démissionner, ce qui quand même aujourd'hui en France n'est pas une bonne solution. Enfin, en tout cas, je ne le conseillerais quand même pas parce qu'on n'a pas de rose acidique. Le temps moyen de recherche d'emploi pour un cadre, c'est 18 mois. Vous avez peut-être, enfin voilà, il faut avoir quand même un petit peu un petit bas de laine de côté. Donc, par rapport à des situations comme ça aussi massives, c'est le problème que j'essaie de déconstruire en sous-problème. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous, on y va délicatement et puis on joue pas à. Enfin, c'est pas des Lego, hein, clairement.
Et puis peut-être que c'est. Je viens un peu à la rescousse, mais est-ce que c'est pas déconstruire un système de pensée automatique pour renouer avec le sens profond de ce que l'on a envie, dans le fond?
Ah oui, oui. Alors, ça, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Mais là, mon premier temps, moi, quand je parle de déconstruction, c'est juste... arrêter l'espèce d'énorme boule prenant, en fait, parce que c'est ça qui arrive en fait dans mon bureau. La première chose, c'est une espèce de enfin, c'est souvent, ouais, c'est assez souvent ce qui m'arrive. Je vois arriver des personnes qui ont un problème qu'elles n'arrivent plus du tout à appréhender parce que devenant trop envahissant, c'est peut-être l'envahissement alors que je veux déconstruire, si je veux parler de déconstruction. Le terme est peut-être pas... Alors, je ne suis pas sémiologue. Voilà.
Mais... Alors, je vous donne une interprétation freestyle. Hein. Je pense que c'est aujourd'hui, on a une dispute, hommes et femmes, les hommes n'aiment pas la déconstruction. Les femmes aiment beaucoup la déconstruction. pour une raison très simple de connotation, de code, puisque ça fait partie du vocabulaire du néo-féminisme, déconstruire les préjugés de genre, les stéréotypes de genre. Voilà. Donc les femmes adorent et les hommes n'aiment pas, ils résistent. Et puis bon, ça nous ramène dans les années 70, il y a du vintage, je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé de vintage. Donc c'est les sciences, la French theory des années 70, c'est du code, ça nous revient. Oui, c'est Derrida qui nous revient, vous parliez de Foucault. Ils sont à la mode aujourd'hui, donc point trop non faux, il faut prendre ça comme un effet de mode, mais je trouve que c'est rigolo, le prisme du masculin féminin.
Bon, je vais arrêter de parler en COBOL, je vais parler en Python, si on veut parler informatique.
Alors pour répondre à la question... sur la culpabilité, je constate que la culpabilité, en fait, les personnes, quand il s'agit d'elles-mêmes, elles se sentent, elles viennent en tant que ce soit, enfin voilà, les mineurs non accompagnés ou en cabinet, elles viennent en posture de victime. Il y a quelque chose qu'elles subissent. En revanche, la culpabilité, il me semble qu'elle vient lorsqu'il y a un tiers qui est là. C'est-à-dire quand j'accompagne en cabinet des personnes qui sont aidants, de personnes malades, elles vont avoir de la culpabilité vis-à-vis de la personne qui est avec elles. Quand c'est les mineurs non accompagnés, elles vont se positionner en posture de victime. Il y a un jeune qui m'a rapporté « je suis noire, je suis sans papier et je n'ai pas de diplôme ». Donc voilà, c'est en posture de victime vraiment. En revanche, il va y avoir de la culpabilité lorsqu'il s'agit de se dire qu'est-ce que je fais du petit pécule qui m'est donné pour vivre ici en France? Est-ce que je le donne à la famille qui n'a pas de quoi vivre? Ou est-ce que je le garde pour moi? Et là, il y a une forme de culpabilité. Donc j'associerai la culpabilité à un tiers qui intervient.
C'est un peu le sens d'une question que j'allais vous poser. On parlait, c'est culpabilité et fragilité. Je relis un peu les deux à un moment donné. En me posant la question, on peut très bien avoir conscience de sa propre fragilité. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Mais est-ce que tout le monde est conscient de la fragilité qu'il cause à l'autre? Ça rejoint ce que vous disiez ce matin. Oui, mais bien sûr, le micro est fait pour être promené, alors...
Alors, je vais parler un petit peu de moi, je n'ai pas trop l'habitude... Je vis avec une certaine forme de fragilité depuis plus de 50 ans. J'ai une myopathie évolutive. Et je crois que tout le monde est fragile, mais à des degrés différents, suivant l'histoire de chacun aussi. Et moi, j'ai puisé ma force dans ma foi. Et je crois qu'il faut cultiver sa vie intérieure, parce que l'environnement ne nous aide pas aujourd'hui à vivre nos fragilités. Et je crois que la prière est vraiment une ressource, et c'est celle qui me conduit à être là aujourd'hui et à bénir le Seigneur. Voilà.
Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, il me semble que la fragilité, on peut ne pas... Là, clairement, il me semble que vous acceptez votre fragilité et qu'elle transcende votre être intérieur et qui rayonne. Il y a vraiment ce combat, à mon avis, que l'on doit mener chacun, de faire face à notre fragilité. Et il me semble que lorsque l'on fait de sa fragilité sa plus grande alliée, eh bien, c'est là que ça devient une force.
Je m'aperçois que personne n'a répondu à ma question. Par rapport à la fragilité qu'on cause à l'autre. Hein ? Il avait quelque chose à dire ?
Ah, mais c'était pas sur votre question.
Non, j'étais intéressé par le propos et la question posée sur la culpabilité. Parce que lorsque j'ai travaillé à la prison de Clairvaux, bon, ça a duré 4 ans, je n'ai pas eu toujours les mêmes détenus inscrits à mes ateliers. Mais je me souviens du tout début où il y avait une séance avec beaucoup de détenus intéressés qui étaient là. Et on a décrit la démarche qu'on voulait suivre pendant quelques années. On voulait pas que ce soit bref, mais que ce soit vraiment un travail sur le long terme. Et donc, quand je décris mon travail de compositeur, j'ai besoin que vous me donniez des textes. Si vous n'y arrivez pas, vous parlez, et puis on fera un atelier de parole, et puis on arrivera comme ça à capter ces paroles. Et puis ensuite, je vais écouter votre voix parler, je vais apprendre à dicter, je vais écrire pour le cœur. Alors, j'ai demandé est-ce que c'était vraiment que ce cœur qui allait venir interpréter la voix, parce que le projet n'était pas de faire un cœur de détenu, mais de faire sortir la parole des murs, pour que là, il y a l'extérieur et qu'elle soit chantée par des chœurs à l'extérieur. Alors, on explique tout ça, je parle de la musique contemporaine en me disant que je dis des gros mots. Et puis, je dis, bon, voilà, la première année, on vous propose de parler de la nuit. Alors, la nuit, bon, c'est un thème très fort pour les détenus, parce que la première nuit de prison, c'est une épreuve terrible. Et la dernière nuit, avant la libération aussi, peut être un moment très, très dur, le retour à l'autonomie. Enfin, bon. Et puis, la deuxième année, peut-être ce sera le thème de l'oubli. Donc on essayait aussi de ne pas trop les brusquer, de mettre des thèmes un peu généraux aussi qui leur permettent de mettre beaucoup de choses de leur expérience, de leur témoignage. Et l'un d'eux, qui, je l'ai su plus tard, était là depuis 26 ans, s'écrit, le seul qui dit ça, et le crime, quand est-ce qu'on en parle ? Voilà, nous-mêmes, on s'attendait vraiment pas à ça, c'est comme si on se prenait ça en pleine poire. Et un petit peu plus tard, je me souviens, c'était la quatrième année d'atelier. Et donc, il y avait un groupe un petit peu nombreux, comme ça. Et d'un côté, des caïds qui venaient de Marseille. Et puis de l'autre, un grand noir, un grand Nemo, qui était toujours un peu à l'écart, comme ça. Et il était à l'écart parce que lui aussi... avait cette forme de lucidité. Et il m'avait remis un texte que j'ai mis en musique, mais je pense que ça bousculait beaucoup ses camarades, et qui commençait comme ça, seul ici, je ne croise que des faits divers sur les thèmes du crime, du meurtre et de la violence urbaine. Et, au fond, il était assez seul avec ce courage de dire ces choses-là, alors que les autres essayaient au contraire de se mettre, enfin, ils se mettaient toujours dans une posture de victime. C'était assez étonnant.
Y a-t-il une dernière question ?
C'est pour vous répondre, en fait, sur les fragilités qu'on cause, pour vous montrer que vous êtes entendu. un des thèmes qui est absent, mais parce que je crois que l'intervenant a dû être absent, Charlotte, sur l'écologie, sur l'environnement. Je pense qu'une des fragilités qu'on cause, c'est notre action sur l'environnement et sur la planète. Et ça, Dominique en parlait ce matin sur l'entreprise qui fragilise et qui tue. Mais nous-mêmes, on a des actions, on fragilise notre planète en surconsommant, etc. Et il me semble que c'est un sujet qui peut animer une autre journée. Voilà.
Il y a plein de sujets, plein de sujets. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de notre journée. On m'avait dit il faut faire une conclusion. Je me suis dit, une conclusion, c'est toujours compliqué à faire. Mais finalement, nous avons des intervenants de qualité. Alors, j'étais en train de me dire que chacun pourrait peut-être donner une phrase ou une observation ou un commentaire sur ce qu'il a pu vivre de la journée avec nous tous, avec chacune et chacun. Donc je vais, s'ils le veulent bien, leur passer le micro. Et puis après, je remercierai chacune et chacun. Et on terminera par l'une de vos chansons, tout à fait, qui nous mettra dans dans un nirvana, peut-être. Ah, voilà.
Madame Darigo. Alors moi, j'ai une manie quand j'écoute comme ça. En fait, je note des phrases dont je me dis ça ferait un super titre de bouquin. Donc c'est pas une conclusion, c'est les bouquins. J'en ai plein, hein, mais je vous en donne. Alors dans l'ordre de ce que j'ai entendu, j'aimerais bien un livre qui s'intitulerait « La parabole du moi poussin ». Ça me plairait bien. Un autre qui dirait avec un point d'exclamation « Il faut aimer l'économie ». J'aime bien aussi, j'ai beaucoup aimé, vraiment, je trouve ça magnifique, « Je fais partie de l'oubli ». Quelqu'un qui dit ça, un de vos détenus qui dit ça, « je fais partie de l'oubli ». Et puis, quelque chose sur, pour moi c'est une phrase, je n'arrive pas à la comprendre vraiment, mais bon, « se donner de la valeur », c'est-à-dire « se donner à soi de la valeur », ça m'intrigue.
Si un jour vous voulez lire des livres, vous avez déjà les titres à venir.
S'il n'y a plus qu'à écrire les livres, ça va si on a le titre. Ce matin, on a évoqué le brin d'herbe, on a évoqué le roseau là, qui veut plier, puis cet après-midi, on était sur les racines. Parce que c'est vrai qu'un brin d'herbe sans racines, ça risque d'être comme un fétu de paille qui s'envole au vent, qui va se fracasser ou se perdre. Voilà, donc je retiens que... voilà, ce brin d'herbe, ce roseau qui fragile mais qui épouse qui épouse le vent, bah, il a besoin aussi de racines et puis avec cet élan vers un ailleurs. Voilà, sinon on se perd, il me semble que c'est peut-être ça l'image que je vais garder de la fragilité, voilà, que ne soyons pas des fétus de paille. D'ailleurs, c'est une image qui existe dans un des psaumes.
Moi, je vais vous dire une drôle de chose. J'ai beaucoup aimé le moment où la technique ne marchait pas. Parce que c'est exactement ce dont je rêve. Une journée comme aujourd'hui, où il y a beaucoup de choses merveilleuses à entendre, et puis tout d'un coup, qui nous est donné une demi-heure, ou je ne sais plus combien de temps ça a duré, où on attend. Et là, on attendait de la musique sublime que j'adore, enfin bon, cela. Et quand la musique est arrivée, il y avait un bonheur de l'entendre, merveilleux. Donc, je ne vais pas terminer comme tout est grâce, mais en fait, c'est ça que je veux dire.
Vous voulez dire quelque chose ?
Alors, moi, au mot de la fin, je poserai mon attention sur une posture individuelle qui me tient à cœur, qui est inspirée de Mère Teresa. Faisons notre ouvrage avec cœur, voilà, qu'il y ait ou non de la fragilité. Et en tout cas, ça sublimera la fragilité s'il y en a.
Bien, mais écoutez, merci à chacune et à chacun. Vous vouliez dire quelque chose ? D'accord. Merci à chacune et à chacun.